Et pour nous parler sport aujourd'hui, ben, comme à tous les matins, on a Ray Lalonde avec nous. Bonjour Ray.
Bonjour Patrick.
Hier, match de baseball incroyable. Martin qui a à peine dormi parce que c'est la Série mondiale et que ça a été un match absolument fabuleux, remporté par les Rays. Et tu voulais nous parler justement de baseball parce que ça va en prendre des matchs comme ceux-là pour, j'ai envie de dire, réanimer la flamme qui vacille de temps à autre aux États-Unis.
Oui, tu as tout à fait raison, puis c'est bien présenté comme ça parce que le baseball est capable d'offrir des moments absolument spectaculaires. Hier, là, c'était tout un match, toute une fin. Le problème hier, c'est que le match a commencé à 8h08, puis s'est terminé 4h10 plus tard.
Mm-hmm.
Alors, premier défi du baseball, lorsqu'on pense à comment le baseball va devenir plus attrayant, plus séduisant, comment on va accrocher les jeunes et comment on va garder les gens connectés au baseball pour la durée d'un match. Alors, première chose, c'est qu'il faudrait considérer réduire la durée d'un match. Puis la deuxième chose qui n'est pas juste anodine, c'est la longueur d'une saison de baseball. Parce que cette année, on a eu 60 matchs, mais en principe, il y a 162 matchs dans une saison de baseball. Puis il y en a beaucoup qui ont peu d'importance. Donc, moins d'enjeux, donc moins d'intérêt.
Bien sûr.
Puis la troisième chose, c'est qu'il faut qu'on considère, quand on regarde l'ensemble de ça, c'est le début des matchs, à quelle heure ça commence. Parce que plus tu commences tes matchs tard, évidemment que ça va terminer très tard, en dehors des heures où les jeunes peuvent regarder les matchs. On a beau dire que c'est un samedi hier soir, mais quand tu commences à 8h08, tu pourrais commencer à 7h38, gagner 30 minutes, et déjà améliorer tes chances que les jeunes vont rester plus connectés plus longtemps.
C'est sûr qu'à 20h, il y a l'aspect de la côte ouest. Tu ne veux pas commencer ton match et que ce soit l'après-midi sur la côte ouest.
Oui, mais ça s'applique à la NBA, ça s'applique au hockey, ça s'applique au football.
Et moi, je me rappelle quand on était plus petit, le hockey, souvent, c'était le match, c'était à 20h.
Oui, à l'époque.
À l'époque,
mais là,
il y a longtemps.
Des années 70,
mais, 80. Mais c'est pour dire qu'eux, donc, ont eu cette prise de conscience-là.
Mais Pat, je pense que les générations, puis Ray, peut-être c'est une statistique que vous avez regardée, entre autres, quand tu étais avec Canadien de Montréal, puis que les matchs, on revenait à 19h. Moi, quand j'arrive du Centre Bell, puis je suis celui qui se lève le plus tôt de la rue, on s'entend, je me lève à 4 heures le matin.
Ouais.
Quand j'arrive du Centre Bell, toutes les lumières sont fermées. Dans le temps de mon papa, tout le monde écoutait une nouvelle de 11 heures. Puis ça se couchait à minuit. À cette heure, les gens sont couchés à cause du trafic du matin. Il faut que ça parte à 5, 6 heures le matin. Oui. Les gens sont couchés à 9, 10 heures. Fait que les fins de match en cote d'écoute à la télévision, à partir de 9, 10 heures, ça chute parce que les gens vont se coucher.
Bien, le défi des sports, de toute façon, dans la consommation télé ou sur le numérique, c'est premièrement de garder les jeunes connectés. Point final, peu importe l'heure. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de programmation. Alors, si le baseball veut se rapprocher d'une plus jeune génération, parce que le défi du baseball, c'est que c'est un sport vieillissant. Puis c'est un sport avec une foule de spectateurs, de consommateurs qui vieillit aussi. Alors, les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas vécu les moments des expos de Montréal. Ils ne sont pas accrochés. Les expos n'existent plus depuis 2004 à Montréal. Alors, 16 ans, puis si tu recules, puis tu prends l'âge d'un jeune qui aurait peut-être 30 ans aujourd'hui, ça veut dire que ses premières années d'adolescence, il regardait le baseball, puis le club est disparu. Alors, tout ça pour dire que le baseball, en Série mondiale, c'est incroyable. Puis je donne un peu de crédit au baseball cette année parce que malgré le début difficile, ils ont quand même joué 898 matchs sans spectateurs. Dans cette mini-bulle, c'est-à-dire les équipes voyagent d'une ville à l'autre, mais il n'y a pas de spectateurs. Alors, c'est une belle réussite quand même. Ça leur a coûté très cher cette année en perte, plus de 3 milliards de dollars. Alors, il y a un enjeu important. Puis l'enjeu, c'est de commencer à innover le plus rapidement possible et de profiter d'une bonne série mondiale avec 11 000 spectateurs dans les gradins et des matchs qui sont enlevants, de commencer à continuer d'intégrer de nouveaux règlements. Par exemple, deux règlements qui ont inséré justement cette année, c'est qu'il y a eu des matchs de programme double qui étaient de 7 manches. Ensuite de ça, ils ont mis un coureur au deuxième but quand on s'en va en manche supplémentaire. C'est important. Puis il y a eu plus de clubs en séries éliminatoires, ce qui est bon pour attirer les spectateurs plus longtemps parce que les chances de faire les séries sont meilleures pour tous les clubs. Alors, ce sont des défis qui guettent le baseball, puis le baseball a besoin de faire des changements. Puis il n'y a rien comme faire des changements que d'être dans une année exceptionnel si on veut, où il y a des circonstances totalement différentes, puis un bouleversement, c'est le temps de faire des changements.
Mais et puis vous connaissez Martin puis Ray, vous connaissez le baseball plus que moi encore. Ray, t'as commencé en disant les matchs sont trop longs. C'est à peu près 4 heures en général. Si on compare au hockey, 3 heures, au soccer, 2 heures. Bon, puis au football, c'est la même chose, c'est 3 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le rythme?
Bon, alors, c'est une bonne question. Cette année, là, le match d'hier, Patrick, était un peu exceptionnel, 4h10. Mais la moyenne des matchs dans le baseball cette année, c'est 3h06.
OK, ça diminue.
Mais 3h06, c'est quand même une demi-heure de plus que le hockey, par exemple. et plus qu'une demi-heure de plus que le basketball de la NBA. Et plus c'est court, plus, si tu me permets l'expression, short and sweet. Mm-hmm. Quand c'est court, c'est plus facile de suivre puis de rester jusqu'à la fin, puis même d'embarquer à la fin de match pour voir la fin justement avoir lieu, quand ça va vraiment se dérouler devant nos yeux. Mais parmi les règlements qu'ils pourraient faire, c'est de continuer à limiter davantage le nombre de visites du gérant au monticule, par exemple. C'est de garder les frappeurs dans la boîte entre chaque lancée. Au lieu de sortir puis se réarranger les gants de frappeurs, ben on perd du temps important. Là, on a mis en place un règlement cette année qui permet au lanceur, qui force le lanceur de faire face à au moins 3 frappeurs. Alors ça, c'est bon, ça. Parce qu'avant, on emmenait un lanceur pour 2 lancers, puis il sortait, puis on en emmenait un autre, puis il avait besoin de 10 lancers pour se réchauffer, puis ça se poursuivait. Ouais. Ce sont tous des petites choses qui grugent des secondes importantes, mais qui rendent un match plus rapide.
Oui, mais toutes ces mises pour accélérer sont là, et ça a quand même duré 4 heures hier. On est allé dans le maximum de la stratégie hier, là.
Oui, mais tous ces règlements-là, Martin, ne sont pas en place, là.
Ah, ben, je suis convaincu que ça va rester. Ils ne peuvent pas faire un pas reculons pour la durée des matchs. Puis là, la question, ils n'enlèveront jamais 162 matchs parce qu'il faut qu'ils rentabilisent les salaires, puis ils ne baisseront jamais les salaires. Fait que la question est de savoir, est-ce que le baseball fera le pas ultime de passer de 9 à 7 manches pour que ça soit plus court? C'est la façon que tu peux accélérer parce que le frappeur prendra toujours son temps.
Oui, mais le frappeur, pour le moment, il n'est pas forcé de rester dans la boîte. Puis le nombre de visites au monticule, ce n'est pas un règlement encore.
C'est quoi, tu dis 9 à 7
manches? Le règlement du coureur au deuxième, ce n'est pas un règlement encore. C'est juste cette année parce qu'il manquait de matchs. Il manquait de date à cause de la pandémie.
Ouais.
Tous ces règlements-là doivent devenir permanents, y compris les règlements de commencer les matchs plus tôt puis de faire en sorte que ça se termine plus tôt. Ce sont tous des choses que le baseball fait face maintenant en vue de la prochaine saison. Le problème du baseball, c'est qu'il y a toujours des conflits entre l'association des joueurs et les dirigeants propriétaires. Donc, ce n'est pas une harmonie qui règne entre les deux parties.
Et parlant de prochaine saison, Ray, on va se parler de NBA et de hockey. Est-ce qu'on a une idée du quand et du comment les prochaines saisons de la Ligue nationale et ou de la NBA vont commencer?
C'est la question que tout le monde se pose actuellement parce que ça vient de se terminer. Ça a été un succès dans les deux ligues. Uh-huh. La question, c'est quand est-ce qu'on reprend? Bon, le hockey a souligné quelques dates. D'abord, on a parlé du 1er janvier en se disant ce serait peut-être la date pour la classique hivernale. Puis là, on se rend compte que c'est trop tôt. Trop tôt pour toutes sortes de raisons, parce que d'abord, le hockey insiste sur la capacité d'avoir des spectateurs. Pas plein, mais des spectateurs. Là, on est rendu, possiblement, selon ce que le propriétaire des Golden Knights de Vegas disait, autour du 1er février.
Oui.
Ce sont tous des éléments spéculatifs. On ne sait pas encore. Mais la NBA s'est prononcée cette semaine. Pour la première fois, ils ont mentionné deux dates. Soit le 22 décembre, soit le 18 janvier. Et la raison pourquoi il y a une différence, c'est que le 22 décembre, ça leur permettrait de jouer 82 matchs, puis ce qui est une saison complète. Puis le 22 décembre, ça permet d'ouvrir à peu près avec Noël. Puis Noël, c'est le jour le plus important de la saison pour la NBA. C'est comme le 1er janvier pour la classique hivernale, le 1er janvier pour les bowls américains. Le 25 décembre, la NBA domine la programmation sportive. Parce qu'il y a 5 matchs de la NBA qui ont lieu ce jour-là. Puis c'est toujours les classiques entre tes favoris. Fait que ça, c'est une journée, mettons, phare pour le basketball de la NBA. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut jouer une saison complète? Est-ce que c'est possible? La NBA souhaite revenir à leur calendrier le plus rapidement possible, c'est-à-dire finir les séries éliminatoires durant l'été. Le défi pour l'été prochain, Patrick puis Martin, c'est que les Jeux olympiques ont lieu c'est l'été vrai. Prochain, en principe, à Tokyo. Puis la NBA participe avec les joueurs de Team USA et aussi avec les joueurs de tous les autres pays du monde qui jouent dans l'NBA mais qui représentent leur pays en saison.
Oui, puis il y en a de plus en plus, en plus. Là.
Exact. Alors, eux autres aimeraient terminer avant le mois de juillet pour les Jeux olympiques. Mais s'ils commencent en janvier, le 18, ça ne sera pas possible de terminer à temps. Puis ça veut dire que le tournoi olympique est affecté en termes de qualité de jeu. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cet aspect-là. La NBA n'a pas eu son repêchage encore, c'est le 18 novembre prochain. Il n'y a pas eu la période d'autonomie, où il y a des agents libres qui changent d'équipe. Puis le jour où les Lakers ont terminé pour gagner le championnat il y a quelques semaines, et le début de saison le 22 décembre, ça donnerait 10 semaines. Normalement, la pause entre une saison morte puis le début d'une autre saison, c'est 20 semaines.
Et la frontière est encore fermée aussi, là. Je ne sais pas ce qui arrivera des Raptors.
La frontière est encore fermée. Dernier point, ça force les Raptors à avoir un domicile aux États-Unis.
Ouais.
Ce qui est loin d'être facile pour
pas évident,
eux
mais sûr.
Comme équipe parce qu'ils sont les seules victimes de ça.
T'sais, la nouvelle pour la NBA le 22 décembre est sortie vendredi. J'en ai parlé hier samedi en ondes, Ray. Est-ce que la Ligue nationale de hockey va réagir à ça? Parce que la Ligue nationale de hockey ne veut pas laisser le bateau de la NBA partir sans embarquer parce qu'ils vont se faire bouffer la peu de partie du marché qu'ils ont.
Oui, bien, je pense pas que le hockey est affecté par le basketball. À part du fait qu'ils partagent certains amphithéâtres. Les revenus télé pour la NBA sont de 2,2 milliards par année. Les revenus télé pour le hockey sont à peu près de 400 millions. 200 millions aux États-Unis.
Mais la Ligue, va-t-il falloir qu'ils disent « OK, nous autres aussi, il faut qu'on parte si eux partent le 22 ».
Ben non, parce que je pense pas que le besoin est le même. Le besoin du hockey, c'est d'attirer des spectateurs. La NBA a moins besoin d'attirer des spectateurs.
Alors,
le hockey va patienter le plus longtemps possible pour que la pandémie se stabilise puis qu'on puisse mettre des gens dans les gradins. Ça, c'est une priorité pour le hockey. Ça l'est moins pour le basketball. Donc, rarement, là, ils ont des situations vraiment divergentes, mais on pourrait en voir une cette année.
Et en 10 secondes, Louis, je te demande de sortir ta boule de cristal. Le premier match de hockey va se dérouler quoi? 15 février?
Moi, je pense que ça va être beaucoup plus près du 1er février que du 1er janvier.
Merci beaucoup, Ray Lalonde. Merci de nous avoir parlé ce matin.